Nous sommes tellement, tellement, tellement bénis d'être à la fête de Dieu. C'est extraordinaire. Il y a très peu de monde sur la planète entière qui ont la chance, la bénédiction de célébrer cette fête commandée par le Tout-Puissant et de savoir ce qu'elle veut dire. Tout l'encouragement que ça nous apporte, à nous-mêmes, oui, mais pour tous les gens qu'on aime autour et qui ne la connaissent pas la vérité pour l'instant, et que Dieu va éventuellement appeler en son temps. Durant ces jours-là que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène à part de notre routine habituelle, de nos préoccupations, de nos lieux d'habitation, pour que nous nous reposions, pour que nous soyons encouragés, pour renouveler notre premier amour lorsqu'il nous a appelés et pour nous donner la vision de ce qui nous attend si nous persévérons. Et ce qui nous attend, comme on va voir ce matin, si nous persévérons, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et la force pour y arriver, ce n'est pas la nôtre, c'est la force de Dieu. Vous irez voir plus tard dans Philippiens 1, verset 6, la belle promesse qui est donnée dans ce passage. Dieu vous a appelé. Quand il vous a appelé, Dieu a commencé en vous un travail. Et lui, il a la ferme intention et la détermination puissante de le terminer, ce travail-là. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, c'est le jour où Jésus va revenir. Alors, il nous promet ici que si on fait les efforts qu'il faut pour marcher dans ses voies, même si nous ne sommes pas parfaits, lui va nous rendre parfaits. Il va nous amener à terme. Et ce qui est encourageant, c'est que Dieu connaît chaque instant de notre vie, chaque situation que nous avons à vivre, chacune de nos émotions, chacune de nos pensées. Il connaît les pressions qui sont exercées sur vous et sur moi dans cette société du temps de la fin. Il connaît aussi vos limites et mes limites. Et elles existent, nos limites. Notre bon Papa au ciel connaît aussi notre besoin d'encouragement. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles il nous donne aussi cette fête où on doit aller dans un lieu où lui a placé son nom pour qu'on soit loin de nos préoccupations et qu'on les laisse derrière pour vraiment être encouragé. Vous irez voir dans Psaume 34 et le verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes », c'est-à-dire ceux qui pratiquent la justice, même s'ils ne sont pas parfaits, mais ils sont en train de le devenir. « Les yeux de l'Éternel » sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Parce que ceux qui travaillent pour lui plaire, justement, Dieu en est touché, Dieu tient compte de leurs demandes, et Dieu répond toujours à leurs demandes. Le titre de mon sermon aujourd'hui, « Le grand mystère de Dieu ». Le grand mystère de Dieu. Et je vais vous en parler dans deux aspects, sur deux aspects. Le mystère de Dieu que l'humanité ne comprend pas dans son ensemble, c'est que Dieu est une famille et que Dieu, en ce moment, en appelant un petit troupeau, est en train d'agrandir cette famille-là. Ça, ce n'est pas compris dans le monde, même par les grandes religions du monde et les autres également. Ce n'est pas compris à moins que Dieu ne nous le révèle. C'est quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Premier aspect, Dieu est une famille, composée pour le moment seulement de deux êtres divins. Lui, le gouverneur de l'univers, le Père, et Jésus-Christ, son Fils, le premier-né, le premier être humain, à être né de l'Esprit, à être ressuscité à la vie éternelle. Il est le premier à avoir été ressuscité à la vie éternelle. Il est en toute chose le premier. Et là, ça a été le grand lancement, si vous voulez, de la famille spirituelle de Dieu. Deuxièmement, Dieu n'en reste pas là. Dieu a un fils maintenant qui est né dans sa famille, le Christ. Mais il veut avoir beaucoup d'autres fils et d'autres filles. Et là, ça vous concerne personnellement, de même que ça me concerne également. Dieu est en train de se reproduire. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il attire au Christ ceux qu'il appelle. Et lorsque la personne attirée au Christ se met à mettre en pratique les lois de Dieu, Dieu lui accorde de son Saint-Esprit pour que la personne puisse aller plus loin. Et lorsque la personne, par après, a fait le chemin nécessaire, qu'elle passe par les eaux du baptême, à ce moment-là, elle reçoit l'imposition des mains par un serviteur de Dieu, et là, Dieu place sa semence, son esprit, sa nature, dans la personne appelée. Et là, Dieu continue le processus de l'agrandissement de sa famille. Je vous décris ça parce que c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Mais actuellement, Dieu met sa semence seulement dans les appelés qui se repentent, qui sont baptisés et qui veulent faire la volonté de Dieu, ceux qui l'appellent aujourd'hui et ceux qui se repentent, c'est-à-dire qui décident volontairement de travailler à changer leur façon de vivre pour que leur façon de vivre devienne conforme aux lois de Dieu et à la volonté de Dieu. Là, Dieu ajoute au fur et à mesure de son Saint-Esprit, à mesure qu'on fait des efforts pour faire sa volonté. Exactement comme c'est marqué dans Actes 5, 32. Il est écrit dans Actes 5, 32 que Dieu donne son Saint-Esprit, sa puissance, à ceux qui lui obéissent. Comprenez-vous qu'il y a seulement sur la planète Terre actuellement ceux qui s'efforcent d'obéir vraiment à Dieu selon ce que dit sa parole, qui reçoivent son Saint-Esprit et qui deviennent capables de comprendre son grand plan, le grand mystère, ce qui reste un mystère pour le reste de l'humanité. Que Dieu est une famille actuellement composée de deux êtres divins, mais qu'il est en processus pour agrandir cette famille-là avec les quelques individus que Dieu appelle actuellement sur la planète. Si nous persévérons, et c'est à ça qu'on est appelé, on va naître un jour en tant qu'être complètement spirituel. Pour le moment, nous n'avons seulement qu'un dépôt de la vie éternelle, un peu de son Saint-Esprit. Quand on aura totalement son Saint-Esprit, nous deviendrons esprit, comme Dieu est esprit. Mais pas pour le moment. Pour le moment, on doit travailler avec son Saint-Esprit pour s'améliorer, afin d'atteindre notre but, naître un jour en tant qu'être totalement spirituel. Totalement de même nature que Dieu et que le Christ à son retour. Ça, c'est le mystère qui est incompris, comme je vous mentionnais, par l'ensemble du monde. Que des êtres humains, vous et moi, des tout petites personnes, puissent devenir les enfants de Dieu à part entière. Monsieur Meredith l'explique souvent, qu'on puisse devenir, nous les êtres humains, des enfants de Dieu à part entière, des fils et des filles de Dieu. Des êtres, quand nous allons être transformés au retour de Christ, des êtres devenant immortels et devenant à ce moment-là totalement divins. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est qu'on est partiellement de nature divine. Mais on doit aller plus loin, vivre selon les voies de Dieu, recevoir davantage de son Saint-Esprit. Et le jour du retour de Christ, si nous avons persévéré jusque-là, nous deviendrons totalement esprit. Il y a très, très peu de gens qui ont compris ça à travers l'histoire. Très, très peu. Même à l'ère de Sardes, de l'Église de Dieu dans l'histoire, ce n'était pas compris. M. Armstrong est venu à l'Église de Dieu à l'ère de Sardes. Et ce n'était pas compris. Dieu a révélé cette grande vérité à M. Armstrong. vers les années 52-53. Et quand M. Armstrong a commencé à réaliser l'ampleur de ces idées qui lui venaient, ça lui a fait peur un peu et il voulait absolument être certain de ce qu'il allait avancer, parce qu'il allait annoncer que des êtres humains allaient pouvoir devenir des êtres divins. C'était énorme. Et ce n'était pas enseigné ni compris nulle part. Alors, ce que M. Armstrong a fait, c'est qu'il a demandé aux hommes qui travaillaient avec lui d'essayer de contredire ce qu'ils commençaient à comprendre. Alors, ils ont fait des recherches, y compris M. Meredith qui était avec lui, Dr. Hay, ces hommes-là à l'époque. Et ce qui est fascinant, c'est que Dieu, à ce moment-là, était en train de révéler la vérité à son Église. Le temps était venu pour ça. Alors, ces hommes-là, Dr. Hay, Dr. Meredith et les autres, ont été incapables de prouver le contraire de ce que M. Armstrong avait commencé à comprendre. Donc, ça l'a appuyé ce que M. Armstrong avait commencé à comprendre et que Dieu lui avait révélé. Et ils ont vu dans la Bible que c'était exactement le cas. Formidable! À nous, ça nous est donné sur un plateau d'argent. Mais à l'époque, personne ne comprenait ça et personne n'avait compris cette chose-là. C'est gros, c'est énorme. Cette grande vérité, on la trouve tout de suite au début de la Bible, dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. On trouve cette grande vérité-là que Dieu est une famille et qu'il est actuellement en train de se reproduire pour élargir cette famille-là et que des êtres humains deviennent comme lui et comme le Christ. On ne le voit pas en faisant la première lecture, mais je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Et vous allez voir comment c'est profond. Dieu dit, « Faisons l'homme, c'est au moment de la création d'Adam et Ève, des premiers êtres humains, faisons l'homme à notre image, okay? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Donc, on sait quand il a dit « Faisons l'homme » qu'ils étaient plus qu'un. Il y avait le gouverneur de l'univers et son porte-parole, comme on voit dans Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. » Deux êtres divins éternels qui ont décidé de faire la création et de donner la vie à des êtres humains en disant « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et tout est compris dans cette phrase-là, c'est incroyable. Donc, ils étaient en train de commencer une création spirituelle selon l'espèce divine. Créer des êtres humains au niveau humain, mais appelés à devenir des êtres divins. On voit juste avant, dans Genèse 1, verset 25, que Dieu avait fait les animaux selon leur espèce. Hein? Les animaux, chacun selon leur espèce. Mais quant à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image. C'était complètement différent. Absolument, et je vais vous expliquer plus en détail. Et quand ils ont créé Adam et Ève, physiquement, c'était simplement la première étape de la création spirituelle. C'était d'abord l'être humain créé en tant qu'être physique. Mais il y avait plus que ça. Parce qu'à ce moment-là, Dieu a mis, et il fait la même chose avec chaque être humain qui vient au monde, il met dans le cerveau physique humain ce qu'on pourrait appeler, qu'on va comprendre en langage moderne, un logiciel spirituel, l'esprit dans l'homme, qui n'est dans aucun des animaux. L'esprit dans l'homme, c'est déjà une ressemblance à Dieu, parce que l'esprit dans l'homme lui permet de réfléchir, d'analyser, de choisir, d'élaborer des plans, de réaliser des projets. Les animaux ne peuvent pas faire ça. Dieu a mis dans le cerveau humain l'esprit de l'homme, qui n'est pas dans les animaux, absolument pas, et qui permet ces opérations-là. Dieu avait fait ça en vue plus tard d'ajouter son Saint-Esprit à l'esprit humain pour que les appelés puissent comprendre la dimension ou la perspective divine de Dieu et qu'ils saisissent pourquoi Dieu les avait créés et vers quoi tout ça s'en allait. on voit un peu plus à ce moment-là le grand plan de Dieu, et on voit un peu plus qu'est-ce qu'il y a de condensé dans Genèse 1, 26, quand il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Tout est là, même le but final. On va le voir tantôt. Dieu est puissant. Et parfois, dans un verset qu'on a lu peut-être des milliers de fois, il y a beaucoup plus que l'œil peut percevoir au point de départ. Alors, dans l'esprit, dans le cerveau, pardon, physique de l'être humain, Dieu met ce logiciel qui est une composante immatérielle non physique. Non physique. Allez à Psaume 8, s'il vous plaît. Psaume chapitre 8. Et on va lire le verset 5. Psaume 8, c'est David qui parle. Vous connaissez très bien ce passage-là. David, ici, pose la question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Il parle à Dieu, il dit, qui est-ce qu'on est, nous, pour que tu penses à nous? Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après, au début du verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Mais dans les textes originaux et dans d'autres versions de la Bible, comme dans la version anglaise, c'est « tu l'as fait de peu inférieur à tes anges ». Tu l'as fait de peu inférieur à tes anges. Maintenant, nous ne sommes pas encore de nature totalement divine, même si ceux qui sont appelés et qui se repentent et qui sont baptisés ont l'Esprit de Dieu. Nous sommes en cours de création spirituelle, vers l'étape de création spirituelle finale, qui est la gloire, la même nature totale que le Christ glorieux. C'est un cheminement dans lequel Dieu amène ceux qui l'attirent au Christ. Donc, tu l'as fait de peu inférieur à tes anges, et regardez après. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Wow! Mais quand vous me regardez, et quand je vous regarde, Dieu ne nous a pas encore couronnés de gloire et de magnificence. On est encore des êtres humains physiques, charnels, et certains d'entre nous ont des problèmes physiques, des douleurs, toutes sortes. On est limités, on est des êtres humains physiques encore, même si on a son Saint-Esprit. Mais ici, ce que Dieu dit, dans le fond, c'est qu'il parle du but ultime, de là où il va nous amener. Et là où il veut nous amener, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le but de la création des êtres humains. Allez dans Romains 4, s'il vous plaît. Romains 4, et nous allons lire le verset 17. Vous allez voir comment Dieu voit les choses loin d'avance. Et comme il est le Tout-Puissant, il peut déjà dire que la chose est réalisée, même si pour nous, elle n'est pas encore faite, parce que lui a la puissance de nous amener à terme si nous sommes fidèles. Aussi simple que ça. Romains 4, et le verset 17. Il parle d'Abraham ici. Il, Abraham, est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Autrement dit, Dieu est capable de dire de telles choses, elle n'est pas arrivée, mais je dis qu'elle est arrivée parce que je vais la faire arriver. Il a la toute-puissance pour être capable de le faire. Pour lui, c'est comme si c'était accompli. C'est fantastique, parce qu'il a la toute-puissance de tout faire. Allez dans Hébreux chapitre 2 maintenant. Hébreux chapitre 2. La parole de Dieu est puissante et elle est tellement encourageante. Hébreux chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Il parle du monde de demain ici. Il parle du millénium que nous célébrons aujourd'hui. Et regardez comment il en parle. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Dieu en parle même au passé. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est comme si c'était réalisé. Et il dit, ce n'est pas à des anges là que le monde de demain va être soumis. C'est aux fils et aux filles de Dieu, sous le Christ, qui va hériter de toutes choses. C'est ça. Il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On vient de voir ce verset-là. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Il va plus loin. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Pour le temps de l'humanité actuelle, si vous voulez. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et là, il parle de la gloire future qui attend ceux qui se convertissent. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il le dit au passé parce que pour lui, c'est fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Le Christ doit hériter toutes choses et nous, on doit hériter toutes choses avec lui. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises à l'homme. Et vous le savez, toutes choses ne nous sont pas soumises encore. On est encore très limité à tout point de vue. Mais toutes choses nous seront soumises le temps venu si nous sommes fidèles. Ça, c'est vrai pour le Christ et ce sera vrai pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Romains 8, c'est fantastique quand on met ensemble ces versets-là, on voit la puissance de Dieu, puis on voit comment son plan est précis dans les moindres détails et qu'il s'accomplit à la lettre. Romains 8 et le verset 17, ici c'est l'héritage dont je vous parle, avec le Christ. Or, si nous sommes enfants, et on devient enfant de Dieu quand il nous attire à lui, qu'il place son esprit en nous, à ce moment-là, il met sa semence de vie éternelle en nous, un peu de sa nature. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Quand on devient enfant de Dieu, on est héritier de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, parce que Christ est le premier qui va hériter de toutes choses, et si nous sommes fidèles, nous allons avec lui hériter de toutes choses. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. On revient encore au grand but que Dieu a fixé pour les êtres humains à mesure qu'ils se repentent lorsqu'ils seront changés au moment du retour de Christ. La vie éternelle dans la gloire. Et pour lui, c'est encore là, comme si c'était fait, on le voit un peu plus loin. Allez à versets 29 et 30 de Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, autrement dit, ceux qu'il a appelés. Il les a aussi prédestinés. Il a conçu un plan pour les amener à ce niveau-là. Il les a aussi prédestinés à être semblables ou à devenir semblables à l'image de son Fils. Comprenez-vous pourquoi on doit de plus en plus devenir comme le Christ, agir comme lui, penser comme lui, réagir comme lui et tout ça? Parce que ce faisant, on adopte sa nature, Dieu nous donne davantage de son Saint-Esprit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous avez vu au début, faisons l'homme à notre image. C'est encore la même chose. Pour qu'on devienne comme le Christ. Afin que son Fils, le Christ, soit le premier-né de beaucoup de frères. Le petit troupeau appelé maintenant. Et ceux qui ont été ses serviteurs au cours de l'histoire. Qui seront ramenés à la vie au moment du retour de Christ, et vous et moi, qui seront transformés en un instant au retour de Christ, si nous sommes fidèles jusque-là, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et il a été le premier-né, c'est-à-dire à naître dans la vie éternelle, étant être humain sur la terre. Premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. S'ils se sont repentis. Il nous rend justes quand on se repent, qu'on regrette d'avoir transgressé ses lois, qu'on demande pardon, qu'on passe par les eaux du baptême. À ce moment-là, il enlève nos injustices, nos impuretés, et on devient juste à ce moment-là. Il nous justifie. Alors, ceux qu'il a appelés, qui se repentent, il les justifie, il les rend justes. Et ceux qu'il a justifiés, dont il a enlevé les péchés, et qui continuent à se repentir, il les a aussi glorifiés. Encore le grand but de faire partie de sa famille, de devenir des êtres glorieux, des êtres divins, les frères et les sœurs du premier-né de la famille royale, dirigeante sur la terre. C'est ça. Et Dieu en parle, il dit, il les a glorifiés. Je reviens à ça. Comme si pour lui, c'était accompli, parce qu'il est le Tout-Puissant. La seule personne qui peut faire que je ne serai pas dans le royaume ou que je ne deviendrai pas un être éternel, c'est moi. Si je me détourne de Dieu, ou si je cesse de faire sa volonté, tout simplement, là, je peux perdre ma couronne, comme la Bible mentionne. Mais si je compte sur Dieu, malgré les difficultés, malgré les épreuves, que je lutte pour m'améliorer, Dieu dit, je vais vous rendre à terme. Je vais vous rendre parfait pour le jour de Jésus-Christ, le jour où il va revenir. C'est ça qu'on a vu tantôt dans un des passages tellement encourageant. Alors, c'est pour ça que Dieu, à plusieurs endroits dans sa Bible, il dit, je les ai glorifiés. C'est pas fait encore, mais pour lui, c'est comme si c'était fait. Et à ce moment-là, ceux-là seront totalement revêtus de la nature divine. Nous n'aurons plus de nature humaine et même plus de corps physique. Pour atteindre ce but extraordinaire de devenir un jour des êtres spirituels éternels, en naissant dans la famille divine, nous devons développer le caractère de Dieu. C'est la seule façon. Nous devons adopter dans notre façon de vivre les façons de penser de Dieu, les façons d'agir de Dieu. Et notre modèle parfait, c'est le Christ. Et après, ses apôtres, et bon, même si ce n'étaient pas des gens parfaits, ils ont travaillé fort et ils ont atteint le but, comme Paul. Paul disait, je suis pas parfait. Et on voit même dans Romains 7 que Paul luttait contre des faiblesses qu'il avait. Et il a lutté, lutté jusqu'au bout. Et à un moment donné, Paul a dit, la couronne m'est réservée, elle m'attend. Parce qu'il a continué avec l'aide de Dieu. Par son Saint-Esprit, plus nous le faisons, plus nous participons à sa nature. Il faut comprendre ça, c'est encourageant. Plus je mets en pratique les lois de Dieu, plus Dieu me donne son Saint-Esprit, plus j'ai la nature de Dieu en moi. Ça augmente. Il y a une croissance en moi, spirituellement. Et plus je deviens, et plus vous devenez à l'image de Christ. Faisons l'homme à notre image. Ce n'était pas terminé quand il a dit ça. C'était le projet. Faisons l'homme maintenant physique. On va lui donner dans l'homme un esprit capable de choisir, de décider et tout ça. Et à mesure qu'on va les appeler au cours de l'histoire, les gens vont choisir, on va les aider et ils vont développer l'image de Christ et ils vont devenir comme nous, comme le Père et comme le Christ. Alors, plus on le fait avec le Saint-Esprit, plus on devient comme le Christ. C'est ça. Plus on devient comme le plus vieux de la famille. Exactement. Plus nous devenons, je précise, de nature divine, plus nous devenons divins. Et c'est pas prétentieux de mentionner ça. Ça nous est donné. On n'a aucun mérite à ça. Absolument pas. Mais Dieu veut nous donner ce qu'il y a de plus extraordinaire. Il veut nous faire participer à ce qu'il est et à ce qu'il a en réserve pour chacun de nous. Après ça, selon nos œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. La vie éternelle est un don de Dieu. Mais on a des œuvres à faire pour avoir une récompense en conséquence. Ce à quoi nous sommes destinés, c'est devenir les frères et sœurs glorifiés du Fils de Dieu, le premier-né de la famille divine royale. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. C'est tellement encourageant quand on regarde les choses sous cet angle-là qu'on voit plus précisément le grand plan de Dieu. Jean chapitre 10, et regardez le verset 34. C'est le Christ qui parle. Jésus leur répondit. Dans le fond, il leur dit la même chose que je suis en train de vous expliquer. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux en potentialité, parce que ça fait partie du plan de Dieu que nous devenions parfaitement à l'image de Dieu et à l'image de son Fils. Voyez-vous? Il a dit, vous êtes des dieux en potentialité. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, parce que la parole est adressée lorsque Dieu appelle quelqu'un pour que la personne devienne un être divin dans le temps, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Voyez-vous, on lui reprochait de dire ça. Et bien sûr, lorsqu'on dit qu'on va devenir des enfants de Dieu à part entière, on peut se faire accuser de la même chose. Mais le Christ se faisait déjà accuser de dire qu'il était Fils de Dieu. Mais c'est la réalité. Mais c'est une réalité qui dépasse l'entendement humain et que très peu d'êtres humains sur la planète connaissent et savent ou comprennent. Allons à 2 Pierre chapitre 1. On va voir comment devenir de plus en plus comme Dieu. Ça nous est mentionné à plusieurs endroits dans la Bible et c'est le chemin qu'on doit suivre. Dieu nous appelle à changer. Dieu ne veut pas qu'on reste dans le même état que celui dans lequel nous sommes lorsqu'il nous appelle. Il veut qu'on change, qu'on croisse dans la grâce, dans la connaissance. Comment devenir de plus en plus comme Dieu? Je précise encore, de nature divine, selon l'espèce de Dieu. Pas l'espèce autre, mais l'espèce de Dieu, parce qu'il a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, au fond, selon notre espèce, selon l'espèce divine. » C'est exactement ça. Et regardez qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. 2 Pierre chapitre 1, lisons le verset 3 et 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 et 4. Encore une belle promesse de Dieu. « Sa divine puissance nous a donné, il met encore au passé, mais il fait encore aujourd'hui, il va le faire dans le futur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et qui va nous mener à la vie éternelle, si on a envie. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est de mettre en pratique les lois de Dieu. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'à ceux que Dieu appelle, il promet de donner tout ce qu'il faut pour arriver au but. Malgré les circonstances de nos vies, malgré les difficultés, si nous faisons ce que nous avons à faire. Donc, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et c'est Dieu qui se révèle à nous, les appelés, pour que nous le connaissions. Et pour que nous connaissions son grand but, son plan. Qu'il est une famille et qu'il est en train d'agrandir cette famille-là. Et qu'après le retour de Christ, ce sera le même scénario. Dieu va vouloir continuer à agrandir sa famille en appelant tous ceux qui seront encore vivants, physiques à ce moment-là, après le retour de Christ. Ceux qui auront survécu à la grande détresse. Dieu va les appeler comme il nous appelle maintenant. Ils vont devoir suivre exactement le même chemin. Se repentir, changer, croire non seulement à l'existence de Dieu, mais croire Dieu, croire ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. Et ils vont être bénis en conséquence. Et après ça, il continue au verset 4, il parle de ces promesses-là. « Celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, regardez le but de toutes ces promesses de Dieu, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » On revient encore à ça. Plus je me fie sur les promesses de Dieu, plus je m'applique à marcher dans ses voies et à me purifier de mon ancienne vie pour être conforme à sa loi, plus je développe par la puissance de Dieu sa nature divine en moi. Et je me prépare à ce moment-là à la grande transformation qui aura lieu à la fin. Comment je me prépare? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, on a des choses à faire pour solidifier notre appel, pour ne pas le perdre, pour ne pas s'en détourner, pour solidifier notre appel et notre élection. Parce que si on a répondu à l'appel de Dieu et qu'on a commencé à mettre ses lois en pratique, à changer, Dieu, c'est-à-dire le Christ, nous choisit. Nous devenons ses élus. Mais après, il faut être fidèle. Parce qu'on sait par la Bible qui sera avec le Christ lorsqu'il reviendra. Les appelés, les élus, les fidèles. Ce sont les mêmes, ceux qui ont été appelés, ceux que le Christ a choisis parmi les nombreux appelés. Il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein? Donc, dans tous ceux que Dieu appelle, certains se mettent vraiment en marche Ceux-là, le Christ les élit, il les choisit, ce sont ses choisis. Les autres ne sont pas choisis pour l'instant. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ces élus-là ne sont pas rendus encore. Ils doivent persévérer jusqu'à la fin. Ils doivent être fidèles pour recevoir ce qu'ils doivent recevoir à l'autre bout et devenir des êtres glorieux, devenir totalement à l'image du Christ. C'est fort quand on voit le plan de Dieu en détail de cette façon-là. Verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Comprenez-vous que si moi et vous, on s'applique à faire ça, Dieu va nous faire entrer dans son royaume, même si nous ne sommes rien au point de départ, même si on n'a pas de force, même si on a des grands combats à mener personnellement pour se libérer de nos mauvaises habitudes et de nos fautes et de nos faiblesses. Entrer dans le royaume éternel, ça c'est naître dans la famille royale de Dieu. C'est naître de l'Esprit. C'est naître de l'Esprit. Devenir totalement composé d'esprit. Imaginez, le Christ arrive, vous avez été fidèle, vous êtes transformé en un instant, comme la Bible dit, plus aucune douleur physique. Il y a plusieurs ici qui seraient très heureux, parce qu'on en a tous, ou presque, certains plus que d'autres. Mais là, à ce moment-là, plus aucune douleur physique, aucune limitation non plus, aucune peur, aucune angoisse, aucune inquiétude, aucune anxiété, aucune incertitude, aucune hésitation. Tout est changé. Vous êtes devenu un être divin faisant partie de la famille royale qui va aider les êtres humains ensuite au retour de Christ. C'est intéressant, allez dans Jean chapitre 3. C'est intéressant, le Christ a expliqué ce phénomène-là à Nicodème très clairement, très clairement. Jean chapitre 3 et le verset 5. Regardez ce que le Christ dit à Nicodème. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc si quelqu'un ne passe pas après s'être repenti par les eaux du baptême, et si cette personne-là ne reçoit pas ensuite le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, d'un ministre de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est impossible. C'est le seul chemin. Ce qui est né de la chair est chair. On le sait, nous sommes chair physique. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, celui qui passe par cette nouvelle naissance-là, il naît de l'esprit dans le sens qu'il devient totalement esprit. C'est à ce moment-là qu'il est glorifié, qu'il a la même gloire que le Christ, le même niveau d'existence que le Christ. Il est né de l'Esprit. C'est formidable de voir comment le Christ a expliqué ces choses-là. Regardez le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit », ce que je viens de mentionner. Regardez le verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Malheureusement, il y a plein de religions dans le monde qui font croire aux gens qu'ils sont nés de nouveau actuellement. Ce n'est pas possible. Parce que naître de nouveau, c'est naître en tant qu'être spirituel totalement esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, après ça, il donne un exemple pour montrer qu'est-ce que c'est être une créature totalement spirituelle. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. En tant qu'être spirituel, nous serons capables de voyager pas lentement, là, pas à la vitesse de la lumière, c'est lent, à la vitesse de la pensée, même pour traverser des galaxies, parce que nous serons à ce moment-là comme le vent, si vous voulez, qui peut se déplacer à grande vitesse. Ça, c'est le but de Dieu. Plus de douleur, plus d'inquiétude, des êtres totalement changés avec le caractère parfait de Dieu pour être capable d'aider et de servir les autres. Ça, c'est la deuxième phase du plan de Dieu, dans le sens que c'est la création spirituelle qui aura atteint son but, qui aura atteint son apogée. Et ça va se passer au retour du Christ. Dans ses appelés qui auront été fidèles à développer son caractère, Dieu va alors définitivement mettre sa nature divine entière et totale. Parce que ceux-là vont être encore en train de changer jusqu'à la dernière minute. Alors Dieu va les rendre complètement parfaits à ce moment-là. Et en tant qu'être spirituel, ça va être un moment unique. On n'arrive pas à imaginer comment on va se sentir. Qu'est-ce qui va se passer dans cette transformation instantanée, totale? Un moment unique. Nous allons changer instantanément de niveau d'existence. C'est ça que ça veut dire. Nous allons cesser d'être des êtres humains pour devenir des êtres divins. Nous allons changer de niveau d'existence. C'est ça, la nouvelle naissance. Nous allons passer du niveau humain au niveau divin. Fantastique! Ça fait rêver. Et j'espère que vous allez garder ces images-là parce que c'est ça le plan de Dieu. Et on peut le prouver dans la Bible par plein de versets et plein de passages. Vous savez, il y a différents niveaux d'existence. Le premier niveau de la création, c'est le niveau minéral. Dans ce qu'on voit autour, la terre, les roches, et ainsi de suite. Ça, c'est le niveau minéral. Après ça, Dieu a créé un niveau un petit peu supérieur, qu'on appelle le règne végétal. Donc, les plantes, les arbres. Voyez-vous? Deuxième niveau d'existence. Troisième niveau d'existence que Dieu a créé, c'est les animaux, selon leur espèce, selon l'espèce de chaque animal, des êtres vivants qui peuvent se déplacer, se nourrir, chasser, ou ainsi de suite. Troisième règne, troisième niveau d'existence. L'autre niveau d'existence, c'est l'être humain. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu a créé les êtres humains avec la potentialité de devenir fils et filles de Dieu. Et il nous a créés humains en mettant en nous le logiciel dont je vous parlais, l'esprit dans l'homme qui le rend capable de choisir, de décider, de bâtir et ainsi de suite. Et ça, c'est en préparation de notre choix de suivre Dieu et d'entrer dans sa famille. Au-dessus des êtres humains, on l'a vu tantôt, au-dessus des êtres humains, il y a le niveau d'existence angélique, le règne angélique. Et on a vu tantôt que pour l'instant, les anges sont plus puissants que nous. C'est vrai. Ils sont au-dessus de nous. Mais pour un temps. Parce que lorsqu'on entrera dans la famille de Dieu, ils seront nos serviteurs pour aider dans l'humanité et pour accomplir plein de choses. Mais au-dessus de tout ça, parce que tout ce que je viens de vous décrire, c'est la création qui a été faite par Dieu. Au-dessus de ça, il y a la divinité, qui, elle, est éternelle. Composé de deux êtres divins, le gouverneur de l'univers et son porte-parole, qui est devenu plus tard son fils lorsqu'il est venu dans la chair humaine et qu'il a été ressuscité en devenant le premier-né. Le règne divin est au-dessus de tout ça. À la nouvelle naissance, à la résurrection, nous allons passer du niveau humain au niveau divin, plus élevé que les anges qui seront à ce moment-là nos serviteurs. Vous pourrez aller dans Hébreux 2, versets 6 et 7. Hébreux 2, versets 6 et 7, ça nous rappelle un passage qu'on a vu. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as abaissé pour un temps. Tu l'as abaissé pour un temps. Tu l'as créé pour un temps plus bas que les anges. Tu l'as abaissé pour un temps au-dessous des anges. Mais sa destinée est d'administrer les anges, de les diriger plus tard. Vous savez, le jour du retour de Christ, si vous et moi, on a été fidèles, on va subir cette transformation-là totale, heureuse. Et toutes nos épreuves, tous nos combats, toutes nos difficultés présentes seront choses du passé. Ce sera terminé. Il y a quelque chose de grandiose qui vous attend, et moi aussi. C'est pas pour rien qu'on célèbre cette fête avec autant de joie, parce qu'il y a là-dedans votre avenir aussi, mais pas juste le vôtre ni le mien, mais l'avenir des autres qui vont être appelés après le retour de Christ. parce qu'on est là pour célébrer le millénaire quand les gens vont être appelés au complet, tous les êtres humains. Mais quand le Christ reviendra, quand on sera transformé, nous allons entrer à ce moment-là dans ce que la Bible appelle la joie de notre Maître. Et elle est indescriptible. On ne peut pas y arriver à comprendre tellement ça nous dépasse. Et on aura l'immense privilège de bâtir une société totalement nouvelle, où la misère sera exclue. On aidera les gens à devenir heureux. Vos talents, vous en avez, on doit les développer maintenant. Vos talents, à ce moment-là, vont être amplifiés à la énième puissance, pour ainsi dire, parce qu'on ne sera pas limité. Et on va aider les êtres humains à apprendre à vivre en paix, à marcher dans les voies de Dieu et à vaincre. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Nous, c'est ça qu'on a à faire maintenant. Pourquoi qu'on a à faire ces choses-là maintenant? Puis à lutter? Parce qu'on est en préparation pour aider les autres après. Ce n'est pas d'abord pour nous. On est appelé pour les autres. Comme on célèbre la fête des tabernacles, on y goûte. Mais c'est pour les autres, les êtres humains encore vivants après le retour du Christ, pour qu'ils soient appelés à ce moment-là et pour que nous, on soit prêts à les aider. Vous allez peut-être dire, quand vous allez être transformé en être spirituel et que vous allez pouvoir reprendre une forme physique pour vous adresser aux gens, vous allez peut-être dire à quelqu'un qui souffre ou qui a des problèmes, « Je sais par quoi vous passez. » Vous savez quoi? La personne va peut-être vous dire, « Ouais. Vous savez par quoi je passe? Vous êtes un être spirituel. » Vous allez pouvoir lui répondre. Je sais que vous allez pouvoir lui répondre. À cause de tout ce que vous vivez, les maladies, les épreuves, les pertes, les douleurs, tout ce que vous vivez actuellement, vous allez dire, « Quand j'étais humain, j'ai passé par les mêmes choses que vous. Et j'ai réagi comme vous. Mais j'ai compris que Dieu pouvait nous venir en aide. Je me suis consacré à lui quand il m'a appelé. Je me suis mis dans ses mains. Et il m'a aidé graduellement à vaincre. Pour vaincre certaines faiblesses, j'ai même été obligé de jeûner régulièrement, en plus de le supplier de me donner sa force. Mais quand il a vu que j'insistais pour entrer dans le royaume, il m'a donné la force et j'ai passé à travers. Oui, je suis un être spirituel. J'ai pris une forme physique pour vous parler. Mais je connais vos réactions, je connais vos souffrances. Tournez-vous vers Dieu. Dieu va vous aider, Dieu va vous répondre. Je suis rendu là parce que j'ai fait ça et Dieu a agi en conséquence envers moi. À volonté, comme je mentionnais, on va pouvoir prendre une forme physique, notre corps physique, c'est normal, pour être capable d'interagir avec les êtres humains, pour qu'ils nous voient, pour qu'ils nous entendent. Allez dans Luc 24, Luc chapitre 24, s'il vous plaît. On a un exemple formidable ici qui nous est donné par le Christ. Une fois que le Christ est mort et qu'il a été ressuscité, vous savez qu'il est revenu visiter ses disciples, ses apôtres, à plusieurs occasions. Je vous en mentionne seulement une ici, mais c'est frappant et ça nous fait voir dans quel état nous serons lorsque nous aurons vécu la nouvelle naissance et que nous deviendrons des êtres totalement spirituels qui pourront se déplacer à la vitesse de l'éclair. Luc 24, verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples étaient réunis, et ils étaient dans une pièce fermée. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, le Christ, se présenta au milieu d'eux. » Pouf! Comme s'il avait passé à travers du mur. Ils ont eu peur. Il était devenu un esprit. Il n'était plus un être humain physique, là. Il était devenu un être spirituel. Il était le premier-né de la création spirituelle, le plus vieux de la famille de Dieu. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, et il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous me voyez, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Il y avait encore les cicatrices dans ses mains. Son corps était... Il avait repris son corps physique. Ils ont vu ses plaies. Ils voyaient que c'était bien lui. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, Le Christ est allé plus loin. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? Avez-vous quelque chose à manger? » Il était vraiment physique, il avait repris son corps physique. « Avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Voici ce que peut faire un être spirituel transformé, devenu fils de Dieu, qui peut à volonté prendre un corps physique pour aider les êtres humains physiques. Et dans ce sens-là, c'est un exemple extraordinaire et encourageant que Dieu nous donne de ce qui attend ses fidèles serviteurs. Vous pourrez faire pareil. Vous pourrez vous matérialiser pour que les gens vous voient, pour faire des choses avec eux, pour leur enseigner le grand mystère de Dieu, que eux aussi vont pouvoir faire partie de la famille de Dieu et qu'ils pourront, à leur tour, plus tard, naître en tant qu'être spirituel. Vous allez pouvoir visiter les gens chez eux, manger avec eux, converser avec eux, jouer avec leurs enfants. Et votre aspect extérieur ne sera pas différent de celui d'un être humain ordinaire. Mais, au-dedans de vous, il y aura une différence incroyable. L'amour parfait de Dieu et le caractère parfait de Dieu. Vous allez pouvoir faire comme le Christ faisait quand il rencontrait quelqu'un et qu'il pouvait même lui dire, « Je sais à quoi vous pensez » ou « Je sais quel est votre motif ». On connaîtra le cœur des gens comme le Christ était capable de discerner ces choses-là. On pourra le faire pour aider les gens. À ce moment-là, vous aurez reçu la stature parfaite de Christ. Vous serez à l'image de votre grand frère, de celui que vous vous efforcez d'imiter maintenant. C'est formidable. Ce qui nous attend, c'est indescriptible. Vous aurez les mêmes caractéristiques que lui. Ésaïe 11, voyons simplement quelques caractéristiques du Christ ici. Ésaïe chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » Il parle du Christ ici qui allait naître, c'est une prophétie. « Et un rejeton naîtra de ses racines. » Et regardez comment on décrit le Christ et les qualités qu'on lui donne. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » L'Esprit du Père, l'Esprit du gouverneur de l'univers. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il a toujours servi son Père parfaitement. Et nous allons être capables, nous, de le faire parfaitement à ce moment-là. Et nous serons capables d'avoir la sagesse, l'intelligence, l'amour pour aider les gens de la même façon. Et comme je mentionnais, et ça c'est fascinant, vous allez être capables de discerner l'attitude des gens. Vous allez être capable de discerner leurs intentions réelles pour les aider, leurs motifs. Quand les gens vont vous poser une question, vous allez voir le vrai sens de la question. Parce que parfois, une question nous est posée, mais les gens veulent voir autre chose. Alors, vous allez être capable de voir exactement ce qu'ils veulent savoir ou ce qu'ils ont besoin de savoir à ce moment-là. Et vous allez toujours vous approcher des gens avec compassion, avec humilité, comme le Christ faisait. Avec compassion et avec humilité et avec compréhension totale de leur situation. Et on va voir la vie des gens changer sous nos yeux progressivement. Et ça va être tellement encourageant, fascinant, un travail extraordinaire. Toucher le cœur et la vie des gens pour qu'ils deviennent heureux, pour qu'ils deviennent heureux et qu'ils vivent une vie agréable, abondante. Vous savez, après la grande détresse, je n'insisterai pas là-dessus, vous savez à quel point la grande détresse sera horrible. Ce qu'on voit actuellement avec les migrants, ce qu'on voit actuellement avec les villes dévastées et tout ça, ce n'est pas encore la grande détresse. Mais quand la grande détresse va frapper, ce sera horrible, ce sera terrible. Et ceux qui vont survivre à la grande détresse seront dans des conditions extrêmement pénibles. Et il faudra à ce moment-là être capable de les consoler, de les encourager, de les nourrir physiquement, de les rassurer lentement pour être capable de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Et encore là, ça, c'est une promesse de Dieu. Vous irez voir dans Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. Votre rôle, si vous êtes fidèle et si vous passez par la nouvelle naissance, si vous devenez des êtres glorifiés, servant sous le Christ, pour aider les êtres humains à ce moment-là, vous êtes ces gens-là dont il est question ici. Les bergers que Dieu va donner à son peuple, c'est-à-dire aux êtres humains qui sont encore physiques. Jérémie 3, verset 15. « Je vous donnerai », et il s'adresse aux gens qui vont avoir survécu à la grande détresse, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. On vient de voir que ce sont les caractéristiques du Christ. Intelligence, sagesse et bien sûr amour. Et parce qu'on aura développé le caractère de Christ, on aura la même attitude. Comme j'ai mentionné au début de la fête des tabernacles, c'est une prophétie. C'est une prophétie de quelque chose qui est tout proche de commencer à s'accomplir à partir du retour de Christ. C'est le monde de demain. Et nous, on a le bonheur de vivre ici à l'intérieur de cette prophétie-là. Nous, l'Église, nous prépare à la vie qui vient. Nous prépare de façon utile pour ce que nous aurons à faire. Qu'est-ce qui va se passer dans le millénium? C'est que nous allons, à notre tour, faire ce que l'Église fait pour nous maintenant. Nous allons préparer les êtres humains encore en vie pour leur futur, pour qu'à leur tour, ils entrent dans la famille divine, qu'ils soient heureux et qu'ils reçoivent la gloire. Le Christ, je reviens là-dessus, et c'est fantastique, notre grand frère, il est le premier-né de la famille de Dieu. Puis à son retour, si nous sommes fidèles, nous allons être le premier groupe ajouté avec les serviteurs de Dieu au cours de l'histoire, M. Armstrong, M. Appartient, Moïse, David, et ainsi de suite. Nous allons être le premier groupe, si vous voulez, à être nés de nouveau avec le Christ pour servir l'humanité, en attendant que tous les autres soient appelés. Et notre rôle, ça va être de faire connaître le Père, de faire connaître son plan, de révéler Jésus-Christ, de révéler aux humains à ce moment-là le vrai but de l'existence, qui est tellement fascinant et tellement encourageant, que Dieu a en tête depuis le tout début, depuis Genèse 1, 26, et même avant que ça soit écrit. C'était son plan. Alors écoutez, on a une fête extraordinaire à célébrer. Quelle bénédiction! Il y a beaucoup plus dans la fête des tabernacles que ce qu'on peut imaginer. Comme il y a beaucoup plus dans Genèse 1, 26 que ce qu'on peut voir au point de départ. Profitons de la fête pour renouveler notre premier amour. Si on s'est éloigné un peu au cours de l'année, ravivons la flamme pour nous approcher de Dieu, pour ne pas perdre de terrain. Au contraire, c'est l'occasion d'une relance pour partir sur le bon pied dans les mois qui viennent, pour nous approcher de Dieu durant la fête. Ne négligez pas la prière, comme M. Meredith mentionnait. Priez Dieu régulièrement et abondamment durant cette fête pour vous approcher de lui. Plus vous et moi, on va le faire, plus Dieu va nous donner de force. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le cherchent. Et Dieu répond toujours. Dieu a les yeux sur ceux qui le servent et son oreille est attentive à leurs supplications, comme on a vu tantôt. Dieu vous a révélé à vous et à moi son grand mystère. Et il y a un avenir merveilleux qui nous attend sous peu, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer.